I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What is your reaction?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的牧民南家，
正忙着切丁鸡，bat 着呢。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Sophia Anastasio, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Xavier Martinet, Audrey Rameau, réalisée par Perret Legras et mise en onde ce matin par Clément Daté. On va consacrer cette nouvelle semaine à l'agriculture, aux paysans, depuis les luttes paysannes en Amérique du Sud ou aux Philippines, jusqu'à la nécessité de relocaliser la production, de favoriser les circuits courts. On va s'intéresser toute cette semaine au monde paysans au pluriel. Et pour commencer, on va parler des paysans d'Europe. Effondrement des cours des produits laitiers, du porc, surproduction, marge trop importante des intermédiaires, concurrence des multinationales. Dans toute l'Europe, les paysans et agriculteurs font face à une crise profonde. Depuis cet été, la profession, traversée par ce malaise, se mobilise sans avoir pourtant l'impression d'être entendue par Bruxelles. Alors que les blocages se multiplient, que la colère gronde de plus en plus, la responsable politique tente d'apaiser les choses. Les oubliés de Bruxelles, c'est notre sujet ce matin.
On est quand même dans une situation exceptionnellement grave. Il y a des gens qui sont désespérés, il y a des gens qui ont perdu la foi dans ce qui fait leur métier d'agriculteur. Je pense qu'il y a une perte de repères. Les paysans, ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Les politiques agricoles qui ont été menées depuis les années 60, elles ont dit aux gens, produisez plus de lait, plus de viande, plus de blé. Et puis aujourd'hui, on voit qu'on est dans l'impasse la plus totale.
Je vous rappelle qu'en septembre, il y avait encore quelques réticences à considérer que cette crise était importante et que surtout, elle était appelée, malheureusement pour les agriculteurs à l'échelle européenne, à durer. C'est en tout cas maintenant des choses qui ont bougé et ça avance dans ce sens-là.
Le gouvernement annonce une nouvelle baisse de charges sociales de 7 points immédiate et pour tous les agriculteurs et une année blanche sociale pour tous les agriculteurs qui auront dégagé un très faible revenu en 2015. L'État, le gouvernement assume ses responsabilités, demande à l'Europe d'assumer les siennes. La profession maintenant doit pleinement également assumer les siennes.
Et oui, la semaine dernière, les questions au gouvernement devant l'Assemblée nationale ont principalement concerné la crise traversée par les exploitants agricoles. Le Premier ministre a d'ailleurs annoncé des mesures. Un décret va être pris pour une baisse immédiate de 7 points des charges sociales pour tous les agriculteurs, a déclaré Manuel Valls. Cette mesure sera-t-elle suffisante? Sûrement pas lorsqu'on mesure l'ampleur des dégâts. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, s'est rendu à Bruxelles la semaine dernière, mais n'est pas parvenu à obtenir des engagements concrets du commissaire européen chargé de l'agriculture, Phil Hogan. Ce dernier a pourtant reconnu la gravité de la crise agricole. Il a indiqué qu'il se rendrait à Paris dans les jours qui viennent, le 25 février. Que pourrait-il annoncer? Et plus globalement, comment comprendre le désastre agricole français? Est-ce que c'est le modèle français qui est en crise? Ou est-ce que l'ensemble de l'Europe est concerné? Comment se portent les autres agriculteurs d'Europe, qui sont les perdants et les gagnants de cette politique agricole européenne? Comment devrait-elle aussi évoluer pour garantir l'avenir des paysans de l'Union? On ira ce matin du côté de la Pologne, un pays rentré dans l'Union en 2004 et dont l'agriculture a beaucoup bénéficié des fonds de Bruxelles, mais qui s'est également retrouvé en première ligne face à l'embargo russe imposé par Moscou suite aux sanctions économiques de l'Union européenne lors de la crise ukrainienne. Dans quelle mesure cet embargo, justement, joue pour les agriculteurs européens et en particulier les agriculteurs polonais? Où en sont ces agriculteurs polonais? Quelles sont leurs difficultés? On en parlera tout à l'heure avec Jean-Luc Buer. Et puis on ira également du côté de la Belgique, qui elle aussi est touchée par la crise laitière. On retrouvera le représentant belge et membre du conseil et d'administration du European Milk Board, une association représentative des intérêts des producteurs laitiers d'Europe. En septembre 2015, l'institution communautaire, on s'en souvient, avait débloqué 500 millions en urgence pour aider les producteurs de lait, mais aussi les éleveurs de porc. Quels furent les effets de ces aides? Faudrait-il envisager de nouvelles aides? Est-ce que cette politique de l'aide d'urgence peut durer? Comment trouver une solution pérenne à cette crise du lait? Voilà un petit peu les sujets qu'on abordera tout à l'heure avec Erwin Schöpgeuse. Mais pour évoquer ces oubliés de Bruxelles ce matin, c'est Lucien Bourgeois qui va nous accompagner. Bonjour Lucien Bourgeois.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, un spécialiste de ces questions de politique agricole et alimentaire, et vous êtes également membre de l'Académie d'agriculture. Réaction, Lucien Bourgeois, à ces mesures fiscales annoncées par le Premier ministre, par le gouvernement, de nature à répondre aux défis qui pèsent sur les paysans français aujourd'hui?
La première chose qu'il faut dire, c'est l'immense désarroi de beaucoup d'agriculteurs face à un métier qui est difficile à faire et qui se trouve complètement tourneboulé par des vents contraires et une rapidité de changement qui les bouleverse et sans point de repère. Et je crois que c'est ce manque de point de repère qui est extrêmement important. Et en particulier, cette année 2015 a été l'année de la fin des quotas laitiers. C'était un élément de sécurisation pour les agriculteurs. On a retiré ce système de sécurisation et on n'a pas remplacé par un système qui peut permettre de redonner de la sécurité. Et du coup, non seulement ils voient que les prix baissent, mais en plus, ils ne savent pas ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent et comment ils vont pouvoir avoir un avenir. Et je crois que, alors en face de ça, comme d'habitude, on met des mesures conjoncturelles. Et la mesure conjoncturelle de déduire 7% de cotisation sociale, c'est une aide qui est perçue, en tout cas, comme quelque chose qui favorise les plus gros contributeurs de cotisations sociales et donc ceux qui auraient gagné le plus d'argent dans le passé.
C'est ce qu'ont demandé les agriculteurs, Lucien Bourgeois. On a demandé de revenir à des niveaux fiscaux comparables aux autres membres de l'Union européenne, c'est-à-dire on est à peu près sur les autres pays en moyenne à quoi 35%, chez nous on est à 45%, donc on a dit il est urgent de baisser cette fiscalité.
Oui, bien sûr, mais il y a toujours plein de moyens pour arriver au même résultat, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les Français s'engage maintenant dans la course à l'échalote du moins de charges, mais il faut quand même bien se réaliser que s'il y a moins de charges, il y aura moins de retraites ou moins de compensation pour la maladie. Et donc là, il y a une espèce de cercle vicieux dans lequel on se dit que moins on aura de sécurité, plus on aura de flexibilité, plus cela permettra de la compétitivité, mais en même temps, ça donne une population qui peut quelque part s'appauvrir.
Mais Lucien Bourgeois, l'argument des agriculteurs qui disent nous aussi, on a le droit de bénéficier du crédit impôt pour la compétitivité de l'emploi, puisque nous aussi, finalement, on crée de l'emploi, ce qui leur avait été refusé jusqu'ici, il est légitime.
Tout à fait légitime, bien sûr. Mais par exemple, il y a une aide qui est donnée aux agriculteurs qui est de permettre un amortissement de leur matériel de façon extrêmement rapide. Et cet amortissement extrêmement rapide leur donne l'idée que pour ne pas payer d'impôts, il faut qu'ils puissent entrer dans cette mécanique de l'achat toujours plus important de matériel. Et on a une agriculture française qui est maintenant relativement suréquipée et dont le poids du matériel dans le revenu devient extrêmement important. C'est chaque année, c'est de l'ordre de 7,5 milliards pour les amortissements et de 3 milliards, un peu plus de 3 milliards pour l'entretien du matériel. Donc c'est presque autant que le revenu total.
Bon, donc vous, la réponse fiscale, finalement, c'est pas l'essentiel. Il y a un autre point qui va se jouer là dans les quelques jours qui viennent, c'est qu'il y a des négociations aujourd'hui avec les acteurs de la grande distribution. Elles vont s'achever là, à la fin du mois de février. Ça, c'est un enjeu majeur. Parce qu'en réalité, c'est peut-être là qu'on peut dégager des marges de manœuvre permettant aux agriculteurs de retrouver un tout petit peu de vitalité. Ça va être décisif, ça.
Absolument. Là, on a une des contradictions françaises, c'est-à-dire qu'on a un système dans lequel on a du mal à se mettre autour de la table et à discuter d'une certaine forme de répartition de la valeur ajoutée. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on se retrouvait avec un poids extrêmement dominant de la grande distribution, avec 4 centrales d'achat qui dominaient à peu près le marché. On nous explique qu'il faut de plus en plus de concurrence dans notre pays et on tolère un quasi-monopole de la grande distribution. Les industriels de l'agroalimentaire
sont en train de regagner. Ils sont trop forts.
Oui, c'est-à-dire que c'est un système dans lequel il y a, j'allais dire, quelqu'un qui a un poids prédominant et c'est très difficile de discuter d'égal à égal avec celui qui a un poids prédominant. Et donc je crois que c'est un exemple assez particulier à la France d'avoir ce poids aussi important d'un monopole de la grande distribution. C'est en train de changer puisque les grandes entreprises de la transformation reconquièrent du pouvoir. Mais malheureusement, les agriculteurs ne reconquièrent pas du tout de pouvoir. Et donc, il faudrait qu'on trouve un système de négociation interprofessionnelle qui soit plus équilibré entre les agriculteurs, les industriels de la transformation et la grande distribution, de façon à ce qu'on ait une répartition plus équitable de la valeur ajoutée.
Mais est-ce que c'est la France qui est responsable de cette situation ou est-ce que, d'une certaine manière, la politique européenne n'a pas aussi sa part de responsabilité? Est-ce que, par exemple, les récentes réformes de la PAC, on y reviendra bien sûr, n'ont pas aussi favoriser ces intermédiaires au détriment des petits producteurs?
Alors ça, c'est vrai, c'est qu'il y a une politique libérale en Europe, nous avons décidé que l'Europe ne s'occuperait plus des prix, par exemple. Et ce n'est pas à l'Europe de décider les prix. Et quand on dit qu'il faut payer 1,40 le prix du porc, l'Europe a décidé qu'elle ne ferait rien pour cela et donc ne se donne plus de moyens pour parvenir à cela, en faisant confiance aux acteurs privés. Mais là où il y a une particularité française, c'est que nous avons une façon de laver plus blanc que blanc chez nous, d'appliquer le code de la concurrence avec plus de soucis du détail que dans d'autres pays. Et du coup, nous ne facilitons pas la discussion interprofessionnelle. Et je crois que là, on a une particularité française. Nous sommes un grand pays. Les autres sont souvent des petits pays ou des grands pays régionalisés. Et donc, avec plus de facilité de négociation au niveau local, chez nous, on veut tout régler de Paris et avec des systèmes dans lesquels l'État garde beaucoup de prérogatives et en particulier celle de condamner les agriculteurs dès qu'ils veulent s'organiser. On a bien vu sur les endives, sur les pommes acides, sur un certain nombre de dossiers comme ça, le ministère des Finances donner des amendes relativement importantes et dernièrement le syndicalisme vient d'être condamné pour son odieux monopole sur les prix du porc. Ça pourrait faire sourire mais ça ne fait pas sourire. Enfin c'est vraiment quelque chose. Et alors là on a une application française d'une loi européenne qui est quand même assez particulière et dans laquelle il faudrait qu'on réfléchisse à une façon différente de faire.
Septembre 2015, la crise émerge et l'Europe y répond. On a notamment le commissaire à l'agriculture, Phil Hogan, qui fait des annonces. Retour en septembre 2015.
Alors, il y a eu beaucoup de préoccupations en ce qui concerne les prix dans le secteur laitier et dans l'élevage. Et une annonce récente d'un paquet d'aide de 500 millions d'euros, c'est un engagement important de la part de la Commission pour appuyer l'agriculture européenne. Et vous le savez bien, les ressources sont rares. Cela reflète ce qu'avait dit le président Juncker lui-même, qui avait dit dans son discours récent de State of the Union, le président a dit qu'il soutenait la PAC. Et ce package d'aide poursuit la tradition de la Commission européenne qui vise toujours à supporter, à appuyer les producteurs.
Donc Phil Hogan, commissaire à l'agriculture en septembre 2015, l'Europe débloque 500 millions d'aides d'urgence. Je voudrais qu'on s'attarde, Lucien Bourgeois, sur les effets de cette aide et puis peut-être plus généralement sur cette politique de l'aide d'urgence.
Voilà, c'est le problème qu'on a en agriculture, c'est qu'il faut 10 ans pour changer un système, il faut 10 ans pour un producteur laitier pour rentrer vraiment avec une exploitation qui marche bien après des nouveaux investissements. Il faut du temps pour amortir tout ça, il faut beaucoup de temps pour changer. Et les agriculteurs français ne demandent pas mieux que de changer. Mais il faut du temps. Or, on est vraiment dans l'aide d'urgence en permanence et il faut avoir un minimum de sécurité. Je crois que, j'allais dire, la crise fait partie de la conjoncture agricole. Quand on sait qu'il faut un an pour faire un grain de blé et qu'il faut manger tous les jours, il y aura toujours des crises en agriculture. Il y aura toujours des crises.
Donc il y aura toujours des aides d'urgence?
Non. Parce que on a montré dans le passé qu'on avait des moyens pour réguler et pour faire en sorte que on évite la naissance de ces crises. Il suffit de 1% de production en plus pour faire une baisse de prix de 10 ou 15%. Et donc ça, c'est pas vrai dans le secteur industriel, c'est vrai dans le secteur agricole. Donc il faut s'arranger pour essayer d'être capable d'apporter au moment où il faut la parade à un commencement de crise.
Mais regardez, Lucien Bourgeois, sur ces aides, on avait dit on va favoriser avec cette aide la question des stockages, notamment pour le lait. On s'était dit ça va avoir pour effet de faire baisser le lait. C'est une stratégie qui n'a pas été payante?
C'est-à-dire que là, actuellement, on peut avoir quelques aides d'urgence pour faire un peu de stockage, mais on n'a plus du tout les moyens maintenant. On n'a plus les moyens communautaires et français pour pouvoir stocker comme on stockait avant. Et ce n'est pas forcément une nécessité de stocker avant. Nous avions vu avec les quotas laitiers qu'on pouvait ajuster à un quart de point près la production sur un semestre. Donc on avait une mécanique qui fonctionnait relativement bien. Il faut retrouver ce type de mécanique par une économie contractuelle bien maîtrisée, par une organisation collective, peu importe, mais il faut arriver à retrouver un ajustement parfait entre l'offre et la demande.
Sans aide d'urgence.
Sans aide d'urgence, bien sûr.
Alors l'un des pays, Lucien Bourgeois, qui s'oppose à cette politique de l'aide d'urgence, c'est l'Allemagne. Elle considère qu'on dépense déjà trop pour cette politique agricole commune, je crois que c'est 38% du budget, et que compte tenu des difficultés, eh bien, on ne peut pas se le permettre. Par ailleurs, l'Allemagne, on va en parler, fait figure de cas à part, puisqu'elle est parvenue à considérablement moderniser son agriculture et à en tirer des bénéfices. Direction l'Allemagne.
Vous allez voir ce que va dire la machine. Box 9, treilleuse, tombée.
Tout le monde aime se relaxer, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil pour les vaches. On a mis au point un système pour qu'après la traite, après leur travail, elles puissent se relaxer complètement.
La solution pour les éleveurs, c'est d'avoir une exploitation moderne, efficace, une grosse exploitation. On est dans la globalisation, on ne peut pas revenir en arrière.
Une grosse exploitation moderne, c'est ça l'Allemagne, c'est pour ça qu'elle est devenue plus compétitive que la France, c'est la recette de la réussite allemande.
En fait, l'Allemagne était dans une situation très très différente. On avait, l'Allemagne a encore aujourd'hui deux fois moins de terres arables que la France par habitant. Et l'Allemagne était un pays de petites exploitations, toutes petites exploitations en Bavière, et a maintenu ses agriculteurs à la ferme, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité intérieure et parce qu'on avait peur des chars russes. Et donc, on a eu toute une période dans laquelle l'Allemagne a accompagné une politique d'agriculture familiale. Aujourd'hui, l'Allemagne est à la croisée des chemins, parce qu'elle a remis en ordre de marche l'agriculture soviétisée de l'Allemagne de l'Est, et cette agriculture donne l'impression de tourner correctement. Et à la limite...
Qu'est-ce que vous entendez par là? Le fait qu'elle favorise les grosses exploitations, c'est ce qu'il faut entendre?
On a constaté, et c'est le rêve de tout pays industriel, c'est-à-dire qu'on a constaté qu'on arrivait à faire fonctionner des outils industriels avec une certaine efficacité. C'est pas forcément ce qui va dans le sens du rapprochement entre le consommateur et le producteur. C'est pas forcément ce qui va dans le sens du bien-être animal le plus parfait, ni de l'artisanat agricole tel qu'on le conçoit. En attendant, ça marche. Et du coup, on est dans un système qui peut basculer avec un modèle allemand qui pourrait nous donner des complexes en France et qui nous donnerait l'impression qu'on peut le copier. Or, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que ce modèle allemand est tout sauf le modèle allemand qu'on connaissait dans le passé. Dans le passé, ce qu'on avait dans la tête, c'était que le Made in Germany, c'était la montée en gamme. C'était de la qualité vendue plus cher, mais qui était
de la réelle qualité. Les grosses berlines allemandes.
Voilà. Et aujourd'hui, bon, on a le problème de Volkswagen, mais on a aussi le problème des abattoirs allemands. Et ils sont en train de nous revendre un modèle post-colonial complètement aberrant, dans lequel finalement l'idéal d'un pays développé serait de pouvoir employer des coloniaux en les payant au prix de la colonie. On n'a même plus besoin d'envahir les colonies maintenant, hein. C'est formidable. On fait venir de la main-d'œuvre immigrée et on la paye au même prix que dans son pays d'origine. Et avec ça, on devient compétitif. Mais j'en fais pas un modèle de société. C'est pas ça qu'on peut vendre à nos concitoyens comme un modèle de société dans lequel on aime bien vivre, d'avoir des sous-hommes payés avec des queues de cerises. Et je crois que là, on a une confrontation entre deux systèmes qui donnent à réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut dans l'avenir. Est-ce que c'est ce modèle industriel bas de gamme ou est-ce que c'est un artisanat rénové?
Alors, il y a effectivement cette question d'utilisation de cette main-d'œuvre précaire, souvent de migrants, mais il y a aussi la question de la taille des exploitations sur le modèle allemand.
Oui.
Or, là, pour le coup, l'Europe a peut-être des responsabilités. Depuis la réforme de la PAC, les aides, elles sont versées en fonction des surfaces et des niveaux de production, ce qui favorise, bien sûr, les gros producteurs et qui incite, finalement, à davantage de concentration des exploitations. On augmente la taille des exploitations pour toucher davantage d'aides aussi. Est-ce que là, il n'y a pas une responsabilité de l'Europe, de la politique agricole européenne?
Vous avez complètement raison, c'est-à-dire qu'on a une Europe qui n'a pas intégré que nous sommes en crise économique. Et l'Europe était sur un modèle de transferts sociaux, c'est-à-dire que c'est pas grave, la population agricole diminue, bon, on va aider à la concentration des aides et à des terres en donnant des aides à ceux qui ont le plus de terres. Et donc on était dans un système dans lequel l'Europe payait les agriculteurs pour se concentrer. Et c'est pas du tout ça que la crise économique met en avant. Avec la crise économique, on a de plus en plus de chômage. Savez-vous que depuis 1992, la France a éliminé 518 000 actifs agricoles. 518 000. On aurait pu en éliminer moins. On aurait pu en diminuer moins. Diminuer moins de population active et on aurait moins de chômage. Je crois que là, on est en train de se poser...
Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il va y avoir de nouvelles discussions pour la politique agricole commune de l'après-2020. Là, on est sur la période 2014-2020. Tout est organisé, finalement. Il faut d'ores et déjà penser à l'après-2020 et peut-être mettre en place un système d'aide dégressif.
En tout cas, oui. Je pense
plus on a de surface, plus on a de production et moins on vous aide?
Non, je pense que c'est pas dans cette direction-là qu'on... Les choses ne vont pas en sens contraire. Ce qu'il faut réfléchir, c'est maintenant effectivement un moyen d'aider davantage l'emploi, mais de l'aider vraiment en création de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur la valeur ajoutée et pas sur la valeur qu'on réduit. Et je crois que tout ce qui va vers la massification, l'homogénéisation des produits, va vers la destruction de valeur ajoutée, alors que j'ai un exemple en tête, il y a un éleveur de Poitou-Charentes, il a décidé de faire des truies plein air, et il n'est pas du tout dans un modèle de niche complètement individuelle. Il a une centaine de truies, il les met en plein air, il le vend en port charcutier, 33 emplois cela fait. C'est autre chose que nos grandes exploitations du bassin parisien. Avec 1000 hectares, il y a moins d'employés que dans la boulangerie qui est à côté de chez moi. Il y a maintenant, on peut faire tourner 1000 hectares avec 5 personnes. On peut faire tourner 400 truies avec moins d'une dizaine de personnes. Et donc, tous ces grands systèmes, ces grandes fermes, n'emploient très peu de monde, en fait. Et beaucoup moins de monde que le système artisanal qu'il remplace.
Alors, comment est-ce qu'on fait, Lucien Bourgeois, pour se concentrer précisément sur la valeur ajoutée? Je disais, donc 2013, on a cet accord qui a été difficile, qui a institué le budget de la PAC pour la période 2014-2020. Là, il va bientôt y avoir déjà des nouvelles discussions pour préparer le nouvel accord pour la période après 2020. Comment ça se profile et comment on fait précisément pour se concentrer sur la valeur ajoutée?
Alors, je crois
est-ce que vous avez le sentiment que nos responsables vont dans ce sens?
Alors, je crois qu'on a un problème européen qu'on vient d'évoquer, mais on a aussi un problème français. Dans la culture française, nous sommes là pour nourrir le monde, ce qui est une stupidité effrayante, c'est-à-dire que nous ne sommes pas, personne n'attend la production française, on attend des produits français de qualité et les consommateurs français en premier attendent des produits français de qualité. Nous n'avons pas tous les mêmes chemises et nous n'allons pas pour autant acheter nos chemises chez Pierre Cardin ou chez Yves Saint-Laurent. Et donc, il faut arrêter de croire que dès qu'on diversifie la production, c'est de la production pour Bobo, c'est de la production pour les plus riches, pour les plus nantis, et que le peuple est condamné à avoir de la qualité standard et seuls quelques riches pourraient avoir de la qualité un peu différente. Non, nous avons tous besoin d'une segmentation des marchés, nous avons tous besoin d'une voiture différente ou d'un modèle de voiture différent, nous avons tous besoin d'une alimentation différente et respectueuse.
Et cette diversification, la France est particulièrement du mal à la mettre en place, parce que vous dites que lors de la réforme sur la période 2014-2020, je vous cite là, la France a obtenu toutes les marges de manœuvre qu'elle a demandé, mais c'est au niveau national que les blocages sont apparus.
Absolument.
C'est quoi ces blocages?
Nous avons un problème culturel en France, nous sommes à France Culture, nous avons un problème culturel. Nous pensons dans les milieux agricoles et même dans les écoles d'ingénieurs en France, c'est assez répandu que on est là pour faire du blé. On n'est pas là pour faire des blés différents, on est là pour faire du blé. Et du coup, on a la culture de la moyenne, on a la culture du produit indifférencié, on a la culture de la matière première. On appelle ça même du minerai. Quel odieux mot pour parler de la viande. Et je crois que là, on a un problème culturel, c'est-à-dire que nous considérons que le métier de commerçant est un métier de rapace, et c'est pour ça qu'on a tant de facilité à faire des manifestations devant les supermarchés. Tout ce qui est du commerce est pas de la pauvreté, mais c'est pas de l'intelligence économique, diront un certain nombre de gens dans le milieu agricole. Et donc, on a l'impression que l'agriculteur qui produit du produit doit avoir de la valeur ajoutée et les autres n'en ont pas. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on est incapable d'inventer de la valeur ajoutée, alors que le consommateur, il veut de la proximité, il veut des qualités différentes de produits, il veut des goûts différents, et tout ça, il faut pouvoir l'accompagner et le respecter.
Donc il faut arrêter de penser les choses en fonction des exportations, c'est aussi un peu ça l'enjeu.
Ah ben absolument. Mais et pour autant, si on arrête de penser en fonction de l'exportation vers le grand large ou vers les Chinois, comme on dit, eh bien, à ce moment-là, on exportera d'autant mieux. C'est ce qui s'est passé sur le vin. C'est-à-dire que nous avons 489 appellations différentes en France. Tout le monde, tous les grands stratèges ont toujours dit que c'était une idiotie. Et en fait, c'est la plus grande réussite que nous ayons faite. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'exportation de vin et boissons, la France serait pas excédentaire en produits agricoles.
Depuis quand la France pense les choses justement en fonction de l'exportation? On commémore là le centenaire de Verdun. Vous me disiez avant de commencer qu'il y a eu une rupture à ce moment-là.
Oui, alors,
Lucien Bourgeois.
La première.
Il y a 100 ans pile.
Oui, en 1916, c'est la première fois qu'on a importé de la viande d'Amérique du Sud. On n'avait d'ailleurs même pas de bateau pour le faire. On était obligé de louer des bateaux anglais pour avoir des bateaux réfrigérés qui nous permettent de nourrir les armées avec de la viande d'Amérique du Sud. Et je crois que là, on a une culture en France qui est la culture du sol national, quelque part. Et on a appris, au moment des guerres mondiales, que c'était dangereux d'être dépendant des colonies. Et on s'est mis à produire plus, et c'est seulement depuis le début des années 70 que nous sommes devenus excédentaires en produits agricoles. C'est-à-dire que jusqu'au début des années 1970, nous étions toujours déficitaires en produits agroalimentaires, alors que nous étions un des pays les plus grands, des grands pays agricoles d'Europe. Et ça, c'est très récent, c'est une vocation très récente. Et de ce fait, ça explique aussi pourquoi nous avons été battus par les Allemands sur le plan de l'exportation. Pas sur le plan des importations, puisque nous importons beaucoup moins qu'eux. Et du coup, nous avons, nous, un excédent, alors qu'eux, ils ont toujours un déficit, contrairement à tout ce qu'on raconte.
Vous parliez du contexte culturel français, avec peut-être des difficultés, des blocages liés finalement à notre histoire, à notre culture. Finalement, est-ce que tout ça ne montre pas des différences dans nos capacités d'adaptation précisément ? Parce que l'agriculture européenne, elle a vécu depuis le début de la PAC jusqu'aux années, disons, 90, sur des systèmes de prix garantis où le producteur produisait, il savait combien il toucherait, tout était très organisé. Il n'y avait pas de lien direct entre la rémunération de l'agriculteur et la réalité du marché. On a voulu rapprocher finalement le marché et le producteur. On a réformé le système. Alors il y a beaucoup, beaucoup de réformes. 92, modification de la politique de soutien sur la baisse des prix garantis. 2003, l'accord de Luxembourg. 2008, le bilan de santé, je mets des guillemets, de la PAC, duquel va découler un certain nombre de mesures, dont finalement la fin des quota laitier de 2015. Et dans ce nouveau système, finalement, de plus en plus libéral, certains se sont mieux adaptés que d'autres. D'ailleurs, quand on regarde, par exemple, les céréaliers, y compris en France, ils se sont adaptés plus vite parce qu'ils avaient déjà un petit peu cette habitude de regarder les cotations à thème, de jouer un petit peu sur les stocks. Pour les producteurs de viande, finalement, ces fluctuations de marché, c'est une vraie nouveauté. Est-ce que, d'une certaine manière, cette crise, elle révèle pas aussi les capacités d'adaptation des uns et des autres?
Alors, on est complètement d'accord, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'adapter, effectivement, et les ministres de l'agriculture en France n'ont pas toujours été des modèles d'adaptation. Il y en a que deux. Il y a que Michel Barnier et Stéphane Le Foll qui ont essayé de trouver des marges de manœuvre par rapport à ce qui était fait à Bruxelles, et la plupart des autres se sont contentés de dire c'est la faute de Bruxelles. Et là, je crois qu'on avait vraiment pas inventé une belle politique, c'est-à-dire que nous sommes un pays jacobin, avec une centralisation extraordinaire. Nous sommes le seul pays dans lequel il n'y a pas de régionalisation. Tous les autres grands pays, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, sont tous régionalisés. En France, nous voulons tout régir de Paris. Et du coup, nous avons des lobbies qui sont plus importants au niveau national, et c'est vrai, une adaptation qui est moins. Ceci étant, ce que je constate aussi, c'est que les agriculteurs eux-mêmes ont une capacité d'adaptation absolument extraordinaire, c'est-à-dire dans la réalité. Quand on regarde bien ce que je disais tout à l'heure sur la Rosette des Prés en Poitou-Charentes, eh bien finalement on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui ont pris des initiatives heureuses, qui vendent leur production sans aucun problème, qui n'ont pas de crise pour l'instant, parce qu'ils se sont adaptés. Et je crois qu'on a un secteur agricole, où on a la chance d'avoir un secteur agricole qui est un des plus innovants de toutes les catégories sociales françaises. Alors maintenant, reste à mettre ça en musique et à ne pas toujours donner les aides aux mêmes, parce que tout à l'heure vous disiez que les céréaliers se sont bien adaptés. Certes, ils se sont bien adaptés, mais quand on donne 300 euros à l'hectare et qu'il faut 5 heures pour faire un hectare, ça fait quand même une subvention de 60 euros de l'heure. Et il y a beaucoup d'industries françaises qui s'adapteraient si on leur donnait 60 euros de l'heure de subvention. Et je crois que, et on s'aperçoit qu'un éleveur, il doit avoir 10 fois moins de subvention à l'heure de travail. Et donc, c'est plus facile de s'adapter quand on a une très forte subvention, et la subvention pour les céréaliers est encore extrêmement importante. Et
même si elle a baissé.
Même si elle a baissé.
De toute façon, elle a baissé pour tout le monde.
Oui.
Par ailleurs, on peut se demander, si je parlais tout à l'heure des années 70, dans les années 70, je le rappelais, le budget de la PAC, c'était 70% du budget global. Aujourd'hui, c'est moins de 40%, c'est 38%. Ça se trouve, dans 20 ans, ça sera 20%, et puis dans 40, ça sera zéro.
Ben, j'ai même tendance à espérer que si un jour on croit à l'Europe, que ça sera très rapidement une dépense infime en Europe, puisque le fait que ça fasse 40% des dépenses, c'est aussi le signe que l'Europe n'existe pas. C'est-à-dire que c'est parce que nous n'avons un budget européen que de 1% de notre PIB, alors qu'aux États-Unis c'est 20%, que cette dépense agricole apparaît élevée. Mais quand on la relativise par rapport aux États-Unis, on dépense pas énormément de choses pour l'agriculture.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine dans les mondes paysans, aujourd'hui les oubliés de Bruxelles avec Lucien Bourgeois. On va s'intéresser à la crise du lait vue de Bruxelles, justement septembre 2015. Les agriculteurs européens se donnent rendez-vous à Bruxelles, dénoncent leur situation, leurs conditions de vie, leurs conditions de travail et demandent aux responsables de trouver une solution à cette crise du lait.
Le fond du problème, c'est la libéralisation des quotas qui a amené une surproduction. Et alors, cette surproduction maintenant n'a fait qu'une chose, c'est faire diminuer le prix. Et le prix est maintenant arrivé plus bas que le coût de production. Et ça, c'est plus viable.
C'est insurmontable. Ou alors, il faudrait traire 1000 vaches. C'est ingérable. Alors, on est devenu dans un système où le fait de baisser les prix, on est obligé de grossir les troupeaux. Et ça ne rime à rien. Les gens sont des esclaves. Ça, faut le dénoncer, parce que c'est impossible de travailler dans des systèmes comme ça.
Le problème, c'est qu'il y a trop de lait en Europe. Il n'y a pas tant de consommateurs que cela dans le monde. La Russie n'achète pas, la Chine un peu, l'Asie. Et nous espérons que toutes les fermes puissent produire plus facilement et que les prix vont augmenter.
Voilà le problème dénoncé par ces manifestants, la libéralisation des quotas qui a généré cette surproduction et donc une baisse des prix. On va retrouver justement un producteur de lait en Belgique, c'est Erwin Schöpges. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes le représentant belge et membre du conseil d'administration de European Milk Board. C'est une association représentative des intérêts des producteurs laitiers en Europe. Alors vous avez une exploitation de 60 hectares avec une cinquantaine de vaches laitières. Vous êtes à la frontière avec le Luxembourg. Vous êtes installé depuis une trentaine d'années dans cette exploitation familiale qui appartenait à vos parents avant vous et même à vos grands-parents avant eux. Pour vous, très clairement, Erwin Schöpges, c'est la pire crise que vous ayez traversée.
Oui, déjà en 2009, il y a eu une grande crise. Ouais. Je pense que tout le monde peut se rappeler où il y a fait tous les épandages de lait, où on a versé notre lait sur les champs. À ce moment-là, c'était déjà vraiment triste de voir la situation sur les exploitations. Mais aujourd'hui, cette année-ci, avec la libéralisation de la production laitière en Europe, les coûts de production chez nous à la ferme, ça a augmenté. On a un coût de production qui est entre 40 et 45 cents. Et on reçoit aujourd'hui un prix du lait qui est autour de 25 cents. Alors vous pouvez bien vous imaginer, si vous avez une exploitation, produire du lait, c'est traire deux fois par jour, 365 jours par année. Et si tous les jours vous devez encore rapporter de l'argent avec dans les tables pour produire du lait, qui est quand même le produit, je vais vraiment dire, le plus sain qui existe, alors c'est clair qu'il y a une grande dépression moralement et naturellement aussi au niveau de la trésorerie aujourd'hui dans les exploitations.
Oui, bien sûr, quand ça coûte plus cher de produire que de vendre, vraiment, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Comment est-ce que vous faites face justement à cette situation? Vous avez décidé, je crois, vous, de diminuer vos volumes de production.
Ben, c'est clair, on a une organisation européenne, le European Milk Board, où il y a aussi deux organisations de la France, l'APLI et la OPL, qui sont membres là-dedans. Et aujourd'hui, c'est clair, il faut régler, adapter les volumes à la demande. Et aujourd'hui, on produit du lait sans limitation. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, la production, elle a augmenté entre plus que 5% en Europe. La consommation en Europe, soi-même, elle a baissé de 1%. Il y a l'embargo russe, il y a une diminution de la demande de la Chine. Et on ne peut pas continuer dans cette politique européenne comme on vit aujourd'hui.
Pour que je comprenne bien les choses, Erwin Schöpges, vous dites qu'il faut réadapter les volumes à la demande. Concrètement, vous voulez qu'on revienne au quota laitier?
Pas un quota laitier comme on l'a vécu avant. Mm-hmm. Aujourd'hui, du moment où on a un programme de responsabilité de crise, du moment que le prix du lait, il chute, c'est un signal que la production, elle est trop haute. Et à ce moment-là, partout en Europe, on doit diminuer la production, soit volontaire ou vraiment que les États, ils nous obligent à produire moins. Il faut surtout plafonner la production. Ça ne sert à rien que moi, je diminue ma production et mon voisin, il continue à produire encore beaucoup plus. Et ça, ce sont des décisions de l'Europe. Là, tous les ministres, ils doivent se mettre d'accord parce que ça ne sert à rien non plus si la France baisse sa production et en Allemagne, on est en train d'augmenter la production.
Et ça justement, vous avez le sentiment que l'Europe va pouvoir se mettre d'accord et mettre en place ce dispositif à l'échelle Union européenne. Il y a effectivement cette idée de crédit aussi à l'exportation qui a été proposée par la France. Certains pays ont d'ailleurs déjà mis en place ce dispositif. Peut-être qu'il faudrait l'étendre sur l'ensemble de l'Union. On a un commissaire de l'agriculture qui va venir à Paris très bientôt. Il devrait évoquer un certain nombre d'hypothèses justement pour voir ce qu'on peut faire pour éviter cette crise du lait, pour y faire face. Vous attendez des propositions concrètes ?
À ce moment-là, je vois vraiment la politique, elle est gérée par les multinationales, par les grands producteurs privés en Europe. C'est Lactalis, Beaugrain, Campina en Hollande. Mais eux, qu'est-ce qui ça leur intéresse ? C'est avoir la matière première le moins cher possible pour que eux, ils peuvent gagner un maximum sur la production laitière. Ça, c'est un fait. Donner de la prime pour exporter, ça c'est la catastrophe. Moi j'ai été deux fois en Burkina Faso, une fois au Sénégal. Et là, avec notre augmentation de la production, on est en train de casser tous les prix là-bas. Les agriculteurs qui n'ont qu'une vache ou deux vaches et qui vivent de ça, qui savent nourrir leur famille avec ça, ben on est en train de inonder le marché là-bas. C'est-à-dire qu'eux, ils n'arrivent plus à vendre leur lait là. Et ça va créer des gros problèmes. Et alors, à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner si dans 5-10 ans, il y aura plein de migrations qui viennent de l'Afrique, qui viennent ici, parce qu'on est en train de détruire toutes les exploitations là-bas.
Ouais, on est en train de se rendre compte qu'en réalité, ce n'est pas du tout une crise seulement européenne, c'est une crise mondiale en réalité, parce que cette crise européenne, elle a des effets, et vous le dites, notamment sur le cas du Burkina Faso, effectivement, que vous connaissez. Lucien Bourgeois, je voudrais vous entendre réagir sur ce que nous disait Erwan Schöpgeuse.
Ben, on est toujours dans les mesures conjoncturelles, c'est-à-dire que et on est toujours tenté de se débarrasser du problème sur quelqu'un d'autre. Et du coup, on revient avec les crédits à l'exportation au même système qu'on avait dans le passé des restitutions. C'est-à-dire que quand le fleuve de lait déborde en Europe, ben on le rebascule sur le marché mondial coûte que coûte, c'est-à-dire à une certaine époque en donnant à l'Union soviétique du beurre presque gratuit.
Et alors si Lucien Bourgeois, comme nous dit Schöpgeuse, j'ai mal prononcé tout à l'heure, Erwin Schöpgeuse, il faut plafonner la production. Est-ce qu'on risque pas de se retrouver dans une situation où bien on va se tourner, les industriels vont se tourner vers d'autres producteurs extra-européens?
Oui, tout est possible. Je crois que là, il faut qu'on puisse prendre des mesures d'urgence. Peut-être qu'une des mesures d'urgence serait peut-être de rétablir de façon très temporaire une certaine forme de quota pendant un certain nombre de mois ou un certain nombre d'années, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut trouver un moyen pour réguler l'offre et la diminuer. Parce que quand l'offre est trop abondante, ça fait baisser les prix. Et c'est vrai que les industriels en profitent, mais ils n'en profiteront pas forcément longtemps. On pourrait penser d'ailleurs que les grandes entreprises agricoles profitent.
Suffisamment longtemps pour enterrer un certain nombre de paysans.
Hein. Et même pas. Parce que ce que je rappelle souvent, c'est qu'on oublie que dans l'histoire, ce sont les grandes exploitations qui disparaissent en premier. Car les banquiers des grandes exploitations sont toujours moins tolérants que les femmes des petits exploitants. Ça, on l'oublie tout le temps. C'est-à-dire que quand on est petit exploitant, on serre la ceinture. Quand on a un banquier qui vous prête de l'argent et que vous avez une grosse exploitation, elle disparaît parce que le bon banquier vous oblige à la vendre. Et je crois qu'on se raconte des histoire, on a l'impression qu'on va aller vers plus de compétitivité. Là, on va vers beaucoup de gâchis, en tout cas, et de destruction d'appareils qui marchent bien et qui finalement vont être vendus à l'encan pour pouvoir faire une politique à la petite semaine.
Erwin Schöpgeuse, je vous laisse peut-être réagir et puis je voudrais peut-être vous poser une toute dernière question. J'aimerais savoir comment est-ce que vous voyez votre exploitation dans 20 ans. À quoi est-ce qu'elle ressemblera? Est-ce que vous allez encore y travailler? Est-ce que votre fils, parce que je crois que vous avez un fils, en assurera la gestion? Comment vous voyez les choses?
Je pense d'abord, pour répondre à la première question, je pense aussi que vraiment le consommateur, le citoyen, il a aussi son rôle à jouer. Et je pense vraiment regarder uniquement d'acheter les produits laitiers qui sont des marques de Danone, de Lactalis, où on sait d'avance que c'est eux qui font le grand bénéfice. Je demande vraiment aux consommateurs, aux citoyens, retournez-vous vers les produits régionaux, vers les trucs qui sont faits par des producteurs, parce que là, on peut, tout le monde soi-même peut jouer un petit peu son rôle. Moi, chez mon exploitation, je le dis vraiment, j'ai l'âge de 50 ans maintenant, j'ai un fils de 24 ans, et il aimerait bien reprendre la ferme, mais dans des conditions pareilles, je ne peux pas et je ne vais pas jamais lui redonner l'exploitation. Il faut savoir, mon grand-père, mon père, ils ont travaillé très 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 dur pour garder cette exploitation-là, et je trouve, pour moi, c'est très très triste de voir que moi, ma génération, maintenant, on ne veut même plus donner les exploitations à une jeune génération, parce que c'est clair, quelqu'un qui a l'âge de 20, 25 ans et qui reprend une exploitation et tous les jours il doit travailler à perte, même si tu aimes le métier, tu aimes les bêtes, tu aimes travailler dans les champs, et à la fin il n'y a plus d'avenir là-dedans, je trouve que c'est très triste. Et là, le commissaire Hogan là, qui va venir à Paris, il faut lui bien expliquer et très clair que c'est lui qui est responsable de cette situation qu'on vit aujourd'hui. Lui, il fait une politique pour les multinationales, pour les banques qui sont en train de racheter tous les terres.
Nul doute que vos collègues européens vont lui rappeler à Phil Hogan. Merci beaucoup en tout cas, Erwin Schöpgeus, d'avoir été avec nous.
Merci aussi.
C'était un plaisir de vous entendre. Je rappelle, membre de cette association European Milk Board, cette association représentative des intérêts des producteurs laitiers en Europe. Un grand merci à vous. De la Belgique à la Pologne, il n'y a qu'un pas. L'agriculture est l'un des secteurs en Pologne qui a le plus profité de l'adhésion à l'Union européenne en 2004. Mais les agriculteurs ont également traversé des crises, notamment l'année dernière, quand Moscou a décidé de répondre aux sanctions économiques en décrétant un embargo des produits agricoles en provenance de l'Union.
Les producteurs polonais de fruits et légumes vont subir des pertes d'environ 400 millions d'euros cette année à cause de l'embargo russe. L'Union européenne a accordé une compensation de 125 millions. Ce n'est pas suffisant. De nombreux agriculteurs polonais n'en bénéficieront pas parce qu'elle est sous-financée.
Poutine et tous ses responsables politiques ne souffriront pas de l'embargo. Ce sont les gens ordinaires qui vont souffrir, ceux qui travaillent, produisent, récoltent. Quand le propriétaire ne gagne plus d'argent, il ne peut plus employer tous ces gens ici et on n'a plus de quoi vivre.
L'Union européenne devrait créer un fonds de solidarité pour nos producteurs. Tous les États membres devraient participer. Il y a des usines de transformation de viande qui ont du mal à rembourser leurs prêts. Elles ont besoin d'aide. Ce fonds de solidarité devrait acheter les produits à base de viande et les exporter vers des pays pauvres en Afrique. Ou alors il faudrait les donner à des œuvres de charité en Ukraine. Nos voisins doivent actuellement faire face aux conséquences d'un terrible conflit.
Voilà donc l'année dernière les conséquences de cet embargo russe sur l'agriculture européenne et en particulier du côté de la Pologne. Bonjour Jean-Louis Buer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseiller agricole et agroalimentaire de l'ambassade de France en Pologne. Vous êtes avec nous en direct depuis la Pologne justement. Est-ce que ces agriculteurs polonais, ils souffrent un peu moins de l'embargo russe aujourd'hui? Ou est-ce qu'au contraire, finalement, au bilan, il a considérablement affaibli le secteur agricole polonais?
Alors les agriculteurs polonais ont beaucoup souffert la première année des conséquences de l'embargo russe. D'abord sur le produit très emblématique dont les Polonais sont le premier producteur européen, des premiers exportateurs, qui est la pomme, et ça a même donné lieu à une sorte de mobilisation nationale patriotique. Il fallait manger des pommes pour quelque part montrer à la Russie que l'on pouvait aussi se passer d'elle.
Et d'ailleurs c'est absolument incroyable les effets que ça a eu, Jean-Luc Buer. Je vous coupe, pardonnez-moi, mais je crois que la consommation annuelle de pommes a été multipliée par 10, quelque chose d'incroyable.
Oui, et même encore aujourd'hui, quand vous êtes invité dans une entreprise, invité dans un ministère, on vous offre assez facilement des pommes. Mmh. Elles sont à disposition, un peu dans cet esprit. Ceci étant, depuis lors, les producteurs polonais de pommes se sont beaucoup réorientés sur d'autres marchés, certains marchés communautaires bien entendu, mais aussi des marchés tiers. Et ils ont mis en place une stratégie relativement active pour pallier les conséquences de l'embargo russe.
Et alors, où partent ces pommes polonaises alors ?
Alors, beaucoup partent sur des marchés tiers, beaucoup partent sur des marchés asiatiques, sur des marchés nord-africains. Certaines sont transformées ensuite dans l'industrie polonaise, notamment sur les confitures ou certains nombres d'autres produits alimentaires. On va dire que cela, plus le fait que l'année dernière, la Pologne a connu une très forte sécheresse, a quand même un petit peu détendu les choses pour les producteurs polonais de pommes. C'est naturellement pas le cas pour les productions animales, où les conséquences de l'embargo russe sont toujours extrêmement sensibles, tant sur le secteur laitier que sur le secteur de la production de porc.
Jean-Louis Buer, quand on regarde un peu les grandes évolutions du secteur agricole polonais depuis l'adhésion à l'Union européenne, on voit que les exploitations se sont modernisées, qu'elles se sont également agrandies, permettant ainsi l'augmentation de la part des exportations, on en parlait à l'instant, surtout c'est vrai à destination du marché européen. On a par exemple une Pologne, vous parliez des pommes, mais qui est aussi devenue le premier producteur de volailles. On a un pays qui en réalité est divisé en deux, entre un modèle disons moderne, très productif, avec ses grandes exploitations, ça c'est surtout pour l'Ouest, et puis le modèle plus familial, avec des petites structures, pas toujours très compétitives. Est-ce que la Pologne n'est pas en train de prendre le chemin pris par d'autres? On parlait tout à l'heure de l'Allemagne avec Lucien Bourgeois, avec une forme d'intensification des cultures et des élevages. Et est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans le productivisme effréné qui va pousser les petits agriculteurs dans la misère et la précarité? Ce qu'on voit déjà ici, chez nous. Lucien Bourgeois. Jean-Luc Buer.
Eh bien, c'est très bien que vous ayez dit Lucien Bourgeois, parce que je voulais compléter et prolonger ce que Lucien Bourgeois avait fort justement dit. Il y a dans la dualité quand même de l'agriculture polonaise la même origine historique que celle qui peut exister pour la partie orientale de l'Allemagne. C'est-à-dire que l'ouest de la Pologne est effectivement composé de très grandes exploitations qui étaient antérieurement des exploitations d'État, qui ont été antérieurement, avant 1945, des exploitations, je veux dire, des grands domaines allemands. Et ces grands domaines, eux sont efficients d'un strict point de vue, je dirais, de coût de production, mais ce productivisme, en quelque sorte, que ce que vous évoquez, a ressurgi à l'occasion, mais il n'a pas été en tant que tel constitué. La masse des agriculteurs, des exploitations agricoles polonaises, il y a encore actuellement environ aujourd'hui 1 400 000 exploitations bénéficiaires des aides de la PAC, et vous en avez en fait 300 000 qui représentent l'essentiel de la production mise en marché. Donc vous avez deux agricultures en quelque sorte, et les choix faits par la Pologne sont effectivement de moderniser très fortement les exploitations les plus rentables d'un point de vue de marché. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, il y a une exploitation sur deux qui a un tracteur, et à peu près un achat sur trois de matériel aujourd'hui agricole se fait avec une aide communautaire. Mais vous avez aussi une grande majorité d'exploitations de toute petite taille. La taille moyenne des exploitations est à peine de 10 hectares en Pologne. Donc vous avez encore un secteur très important, notamment à l'Est, comme vous le notiez fort justement, qui est vivrier ou au tout moins qui vend essentiellement sur les marchés les plus proches.
Mais qui est en train de se déliter, ça va de plus en plus mal pour eux.
En nombre d'exploitations, depuis l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne il y a 12 ans, le nombre d'exploitations a diminué et la concentration des terres s'est effectivement renforcée. Pour l'instant, dans le secteur laitier, les choses ne vont pas très bien. Le prix est en dessous de la moyenne communautaire. Mais la plupart des exploitations étant liées à une coopérative qui sont de véritables organisateurs de la filière lait, pour l'instant, les choses ne vont pas très bien, mais elles tiennent encore à peu près. Les plus grandes difficultés sont aujourd'hui sur le secteur du porc, qui a connu depuis l'entrée dans la Pologne, dans l'Union européenne, une diminution de moitié du nombre d'exploitants.
Lucien Bourgeois, réaction en guise de conclusion, on a encore 2 minutes.
Oui, en fait, on se trouve à une espèce de croisée des chemins. L'agriculture est en Europe encore un secteur où l'artisanat peut être très compétitif. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est en train de pousser à une industrialisation extrêmement importante. Et cette industrialisation n'est pas si performante que ça en matière de réponse aux consommateurs et même d'organisation. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit inclus dans un projet de filière compétitive pour que ça puisse marcher. Sinon, elles vont connaître des grandes difficultés aussi. Je rappelle que avec la crise de 1929, ce sont les grandes exploitations qui ont disparu en premier. Et je crois qu'il faut faire très attention à garder ce modèle qui est finalement assez performant, mais il ne faut pas le bousculer. Il ne faut pas dire non plus, en termes de politique, moi je réhabiliterai le politique. Le politique, c'est un vrai métier. C'est pas le politique, c'est pas celui qui dit, finalement, moi je peux rien y faire, c'est la globalisation. Donc qu'il faut redonner du lustre à la fonction du politique, c'est-à-dire celui qui récupère des marges de manœuvre là où tout le monde pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et il faut qu'il en ait, il faut qu'il en donne. Et c'est lui qui doit donner du sens, des points de repère et des marges de manœuvre.
Et des marges de manœuvre dont il dispose, même si parfois il voudrait nous faire croire l'inverse.
Exactement. Et c'est très, très souvent que... Et par exemple, je donnerai un exemple qui me paraît caractéristique en Europe. On a toujours considéré en Europe que l'aide alimentaire ne faisait pas partie de la politique agricole. Alors qu'aux États-Unis, elle en constitue un maillon totalement essentiel. Bah, au moment où il y a un afflux de réfugiés, bah, peut-être aussi qu'une des manières de résoudre certains problèmes agricoles serait aussi de donner plus de camelotes pour l'aide alimentaire, aussi bien pour les réfugiés qui sont ici que les réfugiés qui sont dans d'autres pays, qui permettraient d'attendre dans de bonnes, meilleures conditions.
Merci beaucoup à Jean-Louis Buer qui était avec nous en direct depuis la Pologne, conseiller agricole et agroalimentaire à l'ambassade de France en Pologne et qui est également le responsable de la politique d'installation des jeunes agriculteurs. Un grand merci à vous, Lucien Bourgeois, de nous avoir accompagné ce matin.
Merci.
Pour ouvrir cette série sur les paysans, les mondes paysans, je rappellerai que vous êtes membre de l'Académie d'agriculture également. On peut bien sûr retrouver l'émission que vous venez d'entendre sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde.